Bonjour tout le monde. Content d'être avec vous ce matin et content surtout de partager ce culte avec Paulin. Paulin, c'est un frère de longue date de notre Église. Et pour ceux qui ne sont pas membres de notre Église, peut-être vous ignorez que nous avions samedi dernier, par Zoom, une réunion d'annuel de membres. On avait tendance à appeler ça une assemblée générale, mais comme ce n'est pas une ASBL, la réunion des membres, en fait, c'est plutôt une réunion des membres. Donc, voilà pourquoi on essaye de maintenir ce langage-là. Notre réunion annuelle des membres a eu lieu donc samedi dernier par Zoom. Et je suis dans la grande joie de vous annoncer que nous avons élu notre chef Paulin pour une période d'un an. Non pas parce qu'on espère que ça se limite à un an, mais dans l'espoir que ça va se renouveler ensuite pour plusieurs années, bien entendu. Donc un an en tant qu'ancien avec moi et Samuel dans cette église. Et donc remercions le Seigneur pour cela. C'était un moment joyeux pour nous de voir à quel point Paulin est apprécié. Et nous savons que vous allez aussi prier pour lui dans la décharge de son travail au sein de notre église. En tant qu'ancien, j'aurai à un moment où je vais mentionner un peu cela lors de cette prédication en lien avec 2 Timothée. J'annonce aussi que nous avons renouvelé le mandat de mon frère ancien Samuel encore pour 4 ans au sein de l'Église. Et donc, à partir de maintenant, nous sommes 3 anciens dans l'Église. Nous sommes aidés, bien entendu, avec Benjamin et Adrien, qui sont des assistants au sein de cette Église. Mais le conseil d'anciens se compose donc de 3 personnes. Je pense avoir entendu de la part de Paulin qu'il était de l'église de la SECA 20. Et si vous avez entendu cela aussi, c'est parce qu'il est fort lié à la SECA 20, donc la communauté évangélique du Centre-Afrique, au Nord Kivu, la division 20. Paulin et Irène, Irène est aussi avec nous ce matin, ils viennent de là, ils sont fort impliqués toujours dans une œuvre ici, une ASBL ici, les Amis de Nord Kivu, pour le soutien de l'œuvre de l'Église là-bas. Que ce soit pour la formation des infirmiers, c'est ça le métier de Paulin de base, c'est ce qu'il continue à exercer comme métier, mais que ce soit aussi dans le soutien des églises et soutien d'un aumônier pour l'ISTIM, donc le centre, l'école des infirmiers qui est là-bas. C'est une joie pour nous donc, de travailler avec eux. Et si jamais il y a des membres de la SECA 20 qui nous entendent ce matin, on vous accueille aussi, bien entendu. Et nous prions pour vous et nous espérons vous renvoyer au temps voulu à Paulin et Irène pour qu'ils exercent aussi le ministère là-bas avec vous. Voilà en ce qui concerne les annonces, les amis. Je pense que je vais prier. Si vous avez encore 2 Timothée vous sous les yeux, ce serait utile. Nous commençons donc une nouvelle série de prédications dans le livre de 2 Timothée. C'est assez court. C'est presque à la fin d'été dans votre Bible. Donc Thessaloniciens, les 2 épîtres de Thessaloniciens, puis les 2 épîtres de 1 et 2 Timothée, et puis Tite. C'est, je ne sais pas, un hasard divin que tout l'été se trouve ensemble. Ça m'a toujours aidé pour les trouver dans le Nouveau Testament. Donc, on prie ensemble, et puis que le Seigneur nous aide à entendre ce qu'il dit et aussi à obéir à ce qu'il nous dit. Donc, je vous invite, chers frères et sœurs, à la prière. Seigneur, nous te louons pour ta parole. Et nous voulons te prier que les responsables de cette Église soient attachés à ta parole. Nous prions cela pour Paulin au début de son mandat en tant que responsable avec nous. Nous te prions que tu nous donnes l'intelligence pour que nous apprenions tes commandements. Nous te prions, Seigneur, que nous soyons ceux qui s'attendent à ta parole. Que nous soyons ceux donc qui sont soumis également à ta parole. Donc, garde-nous en Jésus-Christ. Nous te prions merci pour le privilège que nous avons de nous réunir. Nous avons hâte de se réunir en présentiel, mais bénis-nous toujours pendant cette période bizarre où beaucoup d'entre nous se trouvent à la maison, un peu isolés. Que nous soyons encouragés dans notre foi aujourd'hui, Seigneur. Nous te prions cela pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors, je suppose que nous pouvons tous pensais à des exemples de ceux et celles qui ont gaspillé les dons qu'ils avaient. Juste attendre que ça soit mise. Merci, Johan. J'espère que vous allez m'entendre un peu mieux maintenant. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont gaspillé ce qu'ils avaient? Moi, je pense à des footballeurs qu'on annonce lorsqu'ils ont l'âge de peut-être 17, 18 ans comme étant le grand espoir pour leur pays. Et ensuite, ces mêmes personnes, peut-être distraites par les richesses, par le standing qui arrive trop vite à un jeune, ne progressent pas comme ils auraient dû progresser, par manque de dédication, manque de désir simplement de travailler. Alors, peut-être vous êtes prof. Je ne pense pas que nous avons énormément de profs dans notre église, mais peut-être c'est vous. Et vous pensez à des étudiants brillants qui, ensuite, au lieu d'exploiter leur cerveau pour réussir dans tel ou tel domaine, ils sont trop vite satisfaits par des petits plaisirs de la vie. Peut-être nous pensons à ceux et celles qui ont tout gâché car l'alcool ou la drogue leur a pris. Au lieu de mettre leur talent encore à l'œuvre, aujourd'hui, de telles personnes sont nulle part. Peut-être que vous avez ces exemples en tête. Peut-être que vous-même, vous avez un peu de regret à ce sujet-là. Peut-être par manque d'ambition, manque de persévérance dans une tâche. Vous n'êtes pas aujourd'hui là où vous aimeriez être, là où vous savez vous étiez capable d'être. Peut-être que vous vous souciez pour vos enfants en tant que parents dans ce sens-là. Ou peut-être vous êtes un enfant et vous ressentez la pression de vos parents de réussir tel que eux, ils souhaitent pour vous. Mais vous savez, vivre avec le regret d'avoir pu mieux faire dans la vie, de ne pas avoir exploité à fond ce que nous avons, c'est triste. C'est triste de voir, c'est triste d'expérimenter cela. Alors 2 Timothée, ce livre que nous avons lu le premier chapitre, ou une partie du premier chapitre, c'est écrit par l'apôtre Paul. En fait, c'est son dernier livre, la dernière chose qu'il a écrite. Il se trouve probablement emprisonné à Rome. Il n'est pas loin de la mort. La fin est donc proche pour lui, il le sait. Si vous regardez à la fin de 2 Timothée, au chapitre 4, au verset 6, il dit que le temps de mon départ est arrivé. J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et Paul, chapitre 1, considère Timothée, au verset 1, comme étant son enfant bien-aimé. Si Timothée a connu la foi grâce à sa famille, le verset 5 du chapitre 1 nous dit cela, n'est-ce pas? Cette foi a d'abord habité en ta grande mère Loïs et ta mère Eunice. Mais ensuite, c'est Paul, l'apôtre, qui a pris le rôle de mentor pour ce jeune homme de Lystre, dont les frères dans cette ville rendaient un bon témoignage, selon le début de Actes chapitre 16, où on entend parler de Timothée pour la première fois. Timothée, par la suite, est devenu un collègue très proche de Paul, celui à qui Paul avait confié des tâches bien difficiles. Timothée, donc, à ce stade, c'est un homme expérimenté dans le ministère chrétien. Et il veut, Paul, maintenant, que Timothée, à son tour à lui, après le départ de Paul, continue ce combat que Paul a achevé. Que Timothée, lui, continue sa course, qu'il garde, oui, lui aussi, la foi. Verset 6 de notre texte, il dit ceci, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce. » Du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ici, Paul rappelle à Timothée l'événement où Paul avait publiquement reconnu le don que Timothée a reçu de la part de Dieu, un don d'enseignement, de prédication, d'exhortation. Et il dit, Timothée, ranime cette flamme. ne gaspille pas ce don que tu as reçu. Mets à profit ce que tu as reçu. Fais attention de ne pas, par négligence, par la pression des autres, par l'attrition simplement dans le ministère, de lever le pied, de chercher, si vous voulez, la voie de la facilité dans votre ministère, plutôt que la voie de la fidélité. Ranimer la flamme, voyez-vous, ne veut pas forcément dire donc que la flamme s'est diminuée, mais plutôt qu'il faut continuer à alimenter ces flammes, d'entretenir le feu dans la cheminée. C'est comme un père envers un fils à la maison qui voit que son fils se charge donc de la cheminée, du feu. Et il veille un peu sur lui. Et il lui dit à un moment donné, n'oublie pas d'ici une dizaine de minutes d'ajouter encore du bois, mon fils. C'est ça ce qu'il vous faut. Bon, qu'est-ce que cela implique alors pour Timothée de ranimer la flamme? Ça implique deux choses et ce sont les deux points de notre prédication ce matin. Ces deux points se trouvent autour des deux impératifs que nous trouvons dans le texte. D'abord, n'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte de l'Évangile, verset 8. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur. Ce n'est pas parce que Timothée est déjà dans le ministère qu'il ne doit pas entendre cet appel de la part de Paul, de ne pas avoir honte du témoignage de notre Seigneur. Il suffit de penser à un personnage au chapitre 4, de nouveau, verset 5, il s'appelle verset 10 pardon, du chapitre 4, il s'appelle Démas. Démas, on apprend ailleurs dans le Nouveau Testament, faisait partie de l'équipe de Paul à un moment donné. Mais ici, à la fin de 2 Timothée, qu'est-ce qu'on entend de lui? Il a abandonné l'apôtre Paul. Pourquoi? Par amour pour le monde présent. C'est un danger pour ceux qui se trouvent dans le ministère. C'est un danger pour nous tous qui ont reçu de la part de Dieu un ministère, un service à rendre pour être fidèles au Seigneur. Le témoignage concernant Jésus, parce que cela signifie être fier de quoi, si on y réfléchit? Parce que cela signifie être fier d'un criminel qui meurt d'une manière honteuse, condamné par les autorités, maudit par Dieu, selon la religion juive. Vous voyez, d'un point de vue humain, Jésus, c'est un prophète raté, un échec religieux. Et encore aujourd'hui, c'est facile de chercher l'approbation de ceux et celles qui nous entourent dans cette ville de Bruxelles, de vouloir rendre le message de Jésus-Christ crucifié, un message donc honteux, de rendre ce message-là plus abordable, de vouloir mettre l'accent uniquement sur l'amour de Dieu ou l'amour du prochain, mais de passer de côté de la rébellion de l'homme, de la noirceur du cœur humain, du jugement de la part d'un Dieu saint et juste que cette noirceur entraîne, et donc d'une mort sur une croix. Jésus subissait la punition que mérite une telle noirceur. Je me souviens toujours de mon père, à moi, qui n'est pas un croyant, toujours en vie. Lorsqu'il discutait avec moi, c'était l'une des rares occasions qu'on avait à deux pour en parler de la foi chrétienne. Il écoutait ce que j'essayais de lui expliquer à propos de la foi. Qu'est-ce qu'il m'avait répondu? Tu crois réellement, Steve, que Jésus est le Fils de Dieu, mort pour tes péchés? C'est risible, cela. C'est ridicule. C'est ça ce qu'il m'a dit. Vous voyez, à la limite, notre société permet une place pour des chrétiens et pour la foi chrétienne, pourvu que ces chrétiens parlent uniquement de ce qui leur convient, c'est-à-dire du social. Pourvu que ce message soit anodin, inoffensif, Si pour eux, un ministre de l'Église est en quelque sorte un assistant social, pour finir, bah, à la limite, ça va, ça a sa place. Mais du coup, donc, pour ne pas offenser qui que ce soit, nous réclamons ce rôle-là d'assistant social souvent au sein de l'Église. Lorsqu'on parle de ce que nous faisons et de notre rôle en tant qu'Église, en tant que ministre de Jésus-Christ. Mais Paul dit quoi à Timothée? N'aie pas honte du témoignage de notre Seigneur. Et il continue, ni de moi son prisonnier. Car oui, Paul se trouve emprisonné pour le fait d'avoir rendu témoignage au Seigneur Jésus-Christ. S'associer à une telle personne, c'est l'inverse de ce qui se passe lorsque des politiciens d'aujourd'hui aiment se faire voir avec des célébrités pour pouvoir dire bah, « moi j'adhère aussi à ces mêmes principes que ce personnage ». On pense à tous les politiciens qui cherchaient à rencontrer Greta devant les médias ces dernières années, non pas à cause de ses connaissances scientifiques, mais afin d'être associés à ce mouvement qu'elle représente. Nous, vous le voyez, nous nous soucions aussi pour notre environnement. Mais nous associer à un prisonnier qui met en danger, en quelque sorte, les valeurs actuelle de notre culture, c'est d'afficher mes propres couleurs, d'être en porte-à-faux, en quelque sorte, avec ces valeurs. C'est vrai? Tu penses comme un tel emprisonné? Ouh, je ne savais pas que tu croyais aussi ça, toi. S'associer à nous, chrétiens, qui n'est pas dans ton cercle d'amis lorsque tu es à l'école ou lorsque tu es à l'UNIF, bah, cela est également assez coûteux, n'est-ce pas? Attends, toi tu parles à lui? Pourquoi? Bah, il est nul, non? Elle est moche. Qu'est-ce que tu as à faire avec une telle personne? Mettre de la distance, si vous voulez, entre ta foi chrétienne, comme si ta foi chrétienne en privé, ça va, ça tient, et l'expression publique de ta foi chrétienne, c'est-à-dire dans une église locale ou ailleurs, c'est aussi un moyen d'avoir honte du prisonnier de Jésus-Christ. J'aime Jésus, oui, bien sûr, j'aime Jésus, mais je préfère de garder mes distances de ces personnes-là. Non, pas eux. Ils sont un peu nuls, non? Ils sont des abrutis, eux. Eux, ils croient encore la Bible à la lettre. Toi tu ne fais pas ça, non? Vous voyez combien c'est facile de mettre un peu de distance entre notre foi et ceux qui souffrent pour la foi. Timothée ne doit pas avoir honte de Paul, car Paul est un prisonnier du Seigneur. Son prisonnier, à lui. Évidemment, cela ne justifie pas une loyauté à Paul si Paul fait preuve d'action honteuse. Il est emprisonné pour d'autres raisons. Non, parfois, tristement, il faut dénoncer un comportement malsain dans la famille de Dieu, même de la part d'un responsable. Mais ici, il n'en est pas question. Porter l'opprobre de Jésus-Christ, c'est d'être solidaire avec d'autres chrétiens qui souffrent à cause de leur foi. C'est d'être fier de mon appartenance à la famille de Jésus-Christ, même si cela aura un coût conséquent pour nous dans notre parcours, même si le regard des autres à mon sujet change. N'aie donc pas honte, dit Paul à Timothée. Et donc, le deuxième impératif, ce n'est pas une surprise. C'est dans la deuxième partie du verset 8, toujours, n'est-ce pas? Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Le coût de ta solidarité dans l'Évangile avec moi, c'est la souffrance, dit Paul à Timothée. Forcément, car si Paul, lui, est emprisonné, s'associer à Paul engendre le même danger pour Timothée. Timothée doit se rappeler que verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité qu'il a reçu, mais un esprit, ou plutôt l'esprit de force pour faire face à la difficulté, pour comprendre qu'il aura son lot de souffrance dans cette vie. Il y a un sens par lequel cet appel à souffrir s'adresse à Timothée dans sa tâche de ministre de Jésus-Christ, successeur dans un sens de Paul lui-même, car l'opposition est souvent la plus visible contre ceux qui sont la face publique d'une œuvre ou d'une église. Mais il y a également un sens par lequel cette souffrance est le lot de tout chrétien. Paul, plus tard, dans cet épître, chapitre 3, verset 12, dira que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Que voulons-nous pour finir? Le Seigneur Jésus lui-même a souffert et nous suivons dans ses pas. Nous avons chanté cela avec les enfants, n'est-ce pas? Nous suivons sa voix. L'appel de Jésus à tout croyant, c'est de renoncer à lui-même, de charger de sa croix, symbole de la mort. L'appel de Christ, vous le savez, j'espère, c'est un appel à mourir. Ce n'est pas un appel, vous voyez, à trouver un chemin d'épanouissement qui vous convient, comme si Jésus est plutôt mon entraîneur personnel. Il est là pour que je sois en forme pour les différents défis de la vie. Non, c'est un chemin de mourir à moi-même, de suivre le Christ. « Souffre avec moi, dit Paul à Timothée, l'opposition à la fois sera, à l'occasion, oui, rude. » Tu es prêt pour ça, Timothée? Et toi, celui qui écoute ce message, tu es prêt aussi pour cela? Toi, oui, individuellement, dans votre contexte à toi, mais également nous, collectivement, en tant qu'Église locale de Jésus-Christ, cherchons-nous à tout prix à être respectés par les autres. Si cela est le cas, nous garderons le plus possible nos convictions privées. Nous n'encourageons pas l'Église à être engagée dans le témoignage du Seigneur. Oh, ça, c'est pour les spécialistes, mais ce n'est pas vraiment pour moi, cela. Nous chercherons à réserver nos activités en tant qu'Église au domaine que le monde qui nous entoure valorise. Nous serons gênés de nous associer à d'autres qui souffrent pour leur adhésion au message chrétien. Souffre avec moi. Mais à ce stade, je pense à juste ce titre, on pourrait poser la question suivante. Qui a envie de faire cela? C'est bizarre, non, de mettre cela sur la page d'accueil de notre site d'église. Souffrez avec nous. Ça attire du monde, ça? Bon, c'est pourquoi Paul poursuit cet appel en fournissant par la suite à Timothée nos encouragements pour un tel engagement. D'abord, il y en a trois. D'abord, car il en vaut la peine souffrir pour le Christ. Il en vaut la peine. Verset 9 et 10. Souffre avec moi pour la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que cette bonne nouvelle? Bon, il y a plusieurs éléments, n'est-ce pas, dans ces versets 9 à 10. C'est une nouvelle qui nous sauve. C'est une nouvelle qui nous appelle à croire. C'est une nouvelle qui n'est pas basée sur nos œuvres, mais sur le dessein, selon le dessein de Dieu, selon sa grâce déterminée avant que les temps commencent. Mais une grâce manifestée envers nous par la venue de Jésus-Christ, le Sauveur, celui qui est mort à la croix. Rejeté par les hommes, oui, mais ensuite il est revenu à la vie. Il a réduit à rien, nous dit le texte, la mort. Il l'a vaincu, il a ouvert la porte vers la vie, vers l'éternité, où ceux qui le suivent ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alors, nous n'avons pas le temps de décortiquer tous ces éléments, là maintenant, ensemble. Mais là, ces éléments, dans leur ensemble, constituent cette bonne nouvelle qui nous sauve. Sur quelle base cette bonne nous sauve? Cette bonne nouvelle nous sauve? Sur base de nos œuvres? Non, non, non. Dieu ne me pardonne pas en fonction de mes œuvres, qu'elles soient bonnes ou religieuses ou les deux. Ce n'est pas, vous voyez, un message d'un fardeau religieux que Jésus est venu proclamer. Faites tout ceci, tous ces engagements religieux, et enfin vous serez sauvés. Ce n'est pas non plus un message moralisateur que nous proclamons au sein de l'Église. Soyez bons, soyez sages, et vous serez sauvés. Non, c'est un message de la grâce. Venez à moi, dit Jésus. Celui qui a réduit à rien la mort, et pas ma propre mort, je te donne la vie, pas ma propre vie. C'est cela, une nouvelle qui est bonne, les amis. J'aimerais vous encourager à y réfléchir pour un instant. Car si un tel message vous paraît loin de votre propre expérience de la foi chrétienne, si pour le moment vous êtes chez vous ou ici présent, dans un certain sens un peu sous obligation, en train d'écouter ceci, un peu peut-être juste par tradition, ben j'aimerais suggérer que vous êtes probablement loin de vouloir vous identifier à la honte associée à Christ et à ceux qui souffrent pour lui. Non, j'imagine que vous pensez plutôt, peut-être vous ne le dites pas à haute voix, mais dans votre cœur, que votre propre effort d'assister comme vous faites pour le moment, c'est déjà une souffrance, n'est-ce pas? Selon vous, c'est un message plutôt ennuyeux, religieux, une corvée, un fardeau. Vous pensez que Paul, Timothée et tous leurs successeurs, les milliers et des milliers de chrétiens qui continuent jusqu'à notre jour à chercher à témoigner de Jésus-Christ, vous pensez qu'ils l'ont fait pour un message ennuyeux, religieux? Non. Ils l'ont fait, et nous le faisons encore, quand nous avons trouvé quelque chose de brillant, de profond, de magnifiquement bon. Face au Dieu créateur, le seul vrai Dieu de notre univers, face à la noirceur de notre cœur, de ton cœur, face à la réalité donc évidente de notre péché, de ton péché, de notre indépendance par rapport à Dieu, de ton indépendance par rapport à Dieu, qu'allons-nous plaider devant le Dieu éternel et juste? Oh, Dieu, j'ai fait mon mieux, tu sais. J'ai assisté derrière plusieurs fois au culte. Je n'ai tué personne. Vous essayez de plaider ça? Non. Moi, Seigneur, ce n'est pas selon mes œuvres que je plaide que tu m'acceptes. Je plaide le Sauveur, Jésus-Christ. La bonté imméritée, la grâce de la part de Dieu envers moi, en Jésus-Christ. Retenez ce message-là, cet évangile, et nous ne lâcherons pas cette foi. Nous serons prêts à chérir cette foi, quoi que cela nous coûte. Souffre avec moi, car il en vaut la peine. Souffre avec moi, car tel est le modèle que tu as reçu, Timothée. Paul rappelle à Timothée le modèle qu'il a reçu, verset 11. C'est pour cette bonne nouvelle que moi j'ai été institué héros, apôtre, maître. C'est aussi pour cette cause que j'endure ces souffrances. Ces souffrances donc font signe de son affiliation, son adhésion à Jésus-Christ. C'est la proclamation de cette bonne nouvelle qui est à la source de ces souffrances. Et donc il dit à Timothée, verset 13, « Retiens dans la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle de ces saines paroles que tu as entendues de moi. » Qu'avait-il entendu de Paul? Ben, le message dont Paul vient de nous décrire en quelques lignes dans les versets 9 à 10. Souviens-toi de ce modèle-là, Timothée, que le message de Jésus-Christ, le message rassemblé et proclamé par les apôtres, soit au cœur de ton ministère à toi, Timothée. Garde, verset 14, toutes les belles choses qui t'ont été confiées, confiées par Dieu, confiées par l'apôtre Paul lui-même. Vous savez, dans notre culture, certaines choses changent à travers des années, on le sait. Les circonstances, la culture dans laquelle ce message chrétien est proclamé change, c'est normal. La Belgique n'est plus la Gallia Belgica comme lors de l'Empire romain, non? Aujourd'hui, c'est un État indépendant, dont je suis fier d'ailleurs d'être maintenant un citoyen. Si vous ne le savez pas, vous pouvez me le demander après. Le contexte a changé, oui, mais la tâche de l'Église, encore aujourd'hui, n'a pas changé. De garder ce qui nous a été confié, le message de la grâce de Jésus-Christ. Je pense que cela nous aide à connaître notre rôle en tant qu'Église, n'est-ce pas? Nous venons de nommer Paulin en tant qu'ancien de notre Église. On pourrait se demander, qu'est-ce que le rôle des anciens pour finir dans cette Église? Assumer la charge de la gestion de notre Église, oui. Mais quel est le rôle de la gestion de notre Église? Et je pense souvent qu'il y a un peu de confusion à ce sujet. Garder dans notre génération ce que nous a été confié. Et nous le verrons dans les chapitres qui vont suivre. Transmettre alors ce message aux autres. Ici, en fin de parcours, c'est très frappant que l'apôtre Paul ne mentionne pas plusieurs choses qu'il aurait pu mentionner pour la tâche de Timothée et donc de l'Église. Il ne mentionne pas l'hospitalité, il ne mentionne pas les guérisons ou la prophétie, il ne mentionne pas l'entraide entre chrétiens, il ne mentionne pas la transformation de la culture par un engagement politique, culturel ou autre. Il ne parle pas du respect de l'environnement. Ce n'est pas que ces choses n'ont aucune place dans la vie de l'Église, bien entendu, mais elles ne constituent pas, en tant que telles, la mission, la tâche de l'Église. Cette mission, cette tâche, c'est de garder, de transmettre ce qui nous a été confié, comme nos prédécesseurs ont fait pour nous. Comment est-ce qu'on fait cela? Avec de la peine, en étant prêt à souffrir, car tel est le modèle qui nous a été transmis. Donc nous devons prier pour Paulin en tant que nouvel ancien dans l'Église. Ce poste est accompagné par une responsabilité lourde de devoir souffrir avec l'apôtre Paul. Souffre avec moi, car cela en vaut la peine, car tel est le modèle que tu as reçu. Et troisièmement, car Dieu, dans sa puissance, nous soutiendra quoi qu'il arrive. Plusieurs reprises, nous voyons cela, les amis. Et combien ça fait du bien d'apprendre cela, de terminer, si vous voulez, avec cela. Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose sans nous fournir des moyens pour le faire. Dune, c'est mon épouse, si vous ne la connaissez pas, étions à Cora l'autre jour. On essaie d'éviter d'être ensemble lorsqu'on va au supermarché parce que souvent, il y a des petites disputes dans le couple. Mais ce jour-là, on était ensemble. On voulait y aller juste pour un seul achat spécifique. Pas besoin pour nous, pour un caddie, merci. Même si je suis belge, j'avais un trou de mémoire là. On ne pensait pas prendre un caddie. Donc, on arrive au parking, du parking qui est le sous-sol, hein, ce grand corps à Woluwe. Et on arrive au premier étage pour entrer dans le magasin. Et bien sûr, on avait oublié, pas de caddie, pas accès au magasin pendant le temps COVID. On sort donc, on descend, je pense, pour chercher de caddie. Mais on arrive à l'endroit où il y en a. Et oui, pas de pièces dans notre poche pour pouvoir déclencher le caddie. Ah! Bienvenue à notre magasin. Mais débrouillez-vous pour y entrer. C'était un peu ça le message que j'ai ressenti ce jour-là. mais j'étais très patient avec mon épouse, ne vous inquiétez pas. Est-ce que Dieu nous dit, vous êtes dans le parking en quelque sorte, dans la foi chrétienne, mais débrouillez-vous pour le reste? Non. Il pourvoit ce qu'il faut pour que vous soyez équipés dans le ministère. Verset 7, son esprit nous équipe avec de la force pour cette tâche difficile. Nous ne devons pas oublier cela. L'esprit ne nous dote pas uniquement donc pour parler puissamment, pour tenir ferme dans la vérité malgré l'opposition. L'esprit nous dote également, selon ce verset 7, de l'amour pour que notre force ne devienne pas sale ou dure, là où il n'y a pas de grâce ou de compréhension des fautes des autres. Et également, il nous donne de la pondération, du contrôle de soi, cette capacité de ne pas réagir trop vite sur le coup, mais de pouvoir faire la part des choses, de réagir avec sagesse. Verset 8, « Souffre avec moi pour la bonne nouvelle », mais comment? Par la puissance de Dieu. Oui, tout comme Dieu, le don que Timothée a reçu vient de Dieu, tout comme la force dans le ministère est donnée par Dieu, alors de même, l'appel à souffrir est rendu possible par la puissance de Dieu. Et verset 14, « Garde toutes les belles choses qui t'ont été confiées, comment? Au moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. » En nous, en moi, Paul, et en toi, Timothée, et en tous ceux qui se mettent à servir le Seigneur Jésus-Christ par la foi. On fait partie de la même famille. Dieu, par son Esprit, nous aidera en tant qu'Église à garder ce dépôt. C'est frappant, n'est-ce pas, que Paul parle de l'Esprit ici en parlant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À tort, parfois, nous mettons l'Esprit de Dieu dans la case uniquement réservée pour les dons spirituels. Mais l'Esprit de Dieu est concerné par la vérité de la bonne nouvelle. C'est lui qui a inspiré les apôtres à écrire ces Écritures. C'est lui qui illumine nos yeux à comprendre ce qu'il a écrit. C'est lui qui habite en nous, qui a un intérêt à ce que son Église garde ce bon dépôt. Alors, on arrive à la fin. Deux exhortations pour nous ce matin. N'aie pas honte, ni de l'Évangile, ni des serviteurs de l'Évangile. Et souffre avec moi pour cet Évangile. Ce qui signifie que cet Évangile qui donne la vie, qui sauve, doit être toujours et encore aujourd'hui tout en haut de nos priorités. Alors, quelle place pour l'Évangile chez toi, mon cher ami qui écoute? Une place, peut-être, mais une place suffisamment basse, car ce n'est pas encore le cas que vous soyez prêt à ne pas en avoir honte, à vous identifier à d'autres qui souffrent, à souffrir vous-même pour cette foi. Ranimez la flamme, Paul dit à Timothée. Et quelle place a-t-il cet Évangile chez nous en tant qu'Église? Cherchons-nous en tant qu'Église l'approbation à tout prix de notre commune, de notre voisinage? Sommes-nous gênés de dire ou proclamer un aspect de l'Évangile qui heurte les sensibilités de nos concitoyens? Et entre nous, est-ce que le fait d'apprendre que quelqu'un nie parmi nous par son comportement ou par ses croyances un fondement de l'Évangile nous trouble à un point que nous sommes prêts à les confronter pour une telle chose, même si cela met en danger l'amitié qui existe entre nous, même si on risque de dire des choses pour noircir par la suite notre réputation parce qu'on avait osé de dire quelque chose? C'est pas facile tout cela. Prions, chers amis, alors, pour notre Église, pour nos responsables d'Église, qui continuent à ranimer eux aussi la flamme. Prions. Oui, Seigneur, nous te louons pour ce que tu nous dis ici et nous voulons te prier que nous soyons ceux qui n'ont pas honte ni de l'Évangile, ni de son prisonnier, de ceux qui souffrent pour l'Évangile, qui ont le courage de s'afficher chrétiens dans notre société actuelle, ici en Occident. Donne-nous en tant qu'Église de bien comprendre notre tâche de garder cet Évangile qui nous a été confié. Et donne-nous, Seigneur, d'être prêts à souffrir pour cela. Non pas parce qu'on prend du plaisir à la souffrance, mais parce qu'on voit la valeur de cet Évangile qui nous appelle de la mort à la vie, qui n'est pas selon nos œuvres, mais selon la grâce manifestée envers nous en Christ. Que Christ soit glorifié dans ton Église. Au nom de Jésus, donc, nous te prions. Amen.